franceinter.fr.
Le journal de Stéphane Leneuf. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous. Deuxième tour des élections territoriales en Corse. Les nationalistes en force pour confirmer leur score du premier tour. À mi-journée, la participation est en baisse par rapport à dimanche dernier. La droite se cherche un chef. Premier tour pour élire un président chez les Républicains. À mi-journée, taux de participation assez élevé, un peu plus de 50 000 électeurs. Laurent Wauquiez, archi-favori, pourrait l'emporter dès ce soir. Alerte aux salmonelles. Bercy étend les mesures de retrait, de rappel des produits fabriqués par Lactalis, on passe désormais à 620 lots retirés de la commercialisation. Après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par les États-Unis, visite dans un contexte très particulier, Emmanuel Macron reçoit cet après-midi Benjamin Netanyahou. La dépouille de Johnny Hallyday en route pour Saint-Barth, l'avion a décollé ce matin, l'hommage d'hier a eu une influence sur le résultat du Téléthon, les dons sont en baisse, explication de la présidente de l'AMF dans ce journal. Bonjour Ali Badou.
Bonjour Stéphane.
Alors dites-nous tout sur la deuxième partie de questions politiques.
Le grand face-à-face de France Inter avec le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Et puis cette question, Donald Trump est-il irresponsable ou simplement réaliste? Nous ouvrirons le débat juste après votre journal avec l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine.
Prudence côté météo, pluie, vent, verglas, nuages, alerte aux vagues submersives sur certains départements. 22 départements sont en vigilance orange. Deuxième tour des élections territoriales en Corse. Aujourd'hui, 63 élus est désigné pour une nouvelle collectivité unique. Les nationalistes sont en position de force après leur triomphe dimanche dernier. Premier tour, score de plus de 45%. La semaine dernière, l'abstention avait été forte. Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
Alors, vous êtes en direct de Bastia. Pour ce deuxième tour, la participation est en baisse par rapport à dimanche dernier.
Et les électeurs corses ne se bousculent pas dans les bureaux de vote.
À voter.
Ce geste s'est fait encore plus rare que la semaine passée. Effectivement, 16,07% de participation contre 17,52 il y a 8 jours. Et par rapport à décembre 2015, date des précédentes territoriales, la différence est considérable. 24,75% à l'époque, à midi. La Corse boude les urnes et semble manifester une nouvelle fois un désintérêt pour un scrutin pourtant essentiel. Elle vote pour élire la future collectivité unique, fusion des deux départements et de la collectivité existante, qui sera dotée d'un budget considérable, 1 milliard d'euros. Alors, quatre listes sont en lice. Les nationalistes de Gilles Simeone, qui dimanche dernier ont récolté plus de 45% des suffrages et partent ultra favoris. Derrière, trois listes qui ont décidé de partir chacune de leur côté. La droite régionaliste de Jean-Martin Mondologne, celle du parti Les Républicains de Valérie Bozzi et La République En Marche de Jean-Charles Orsucci. Leur objectif, c'est d'empêcher Gilles Simeone de faire le plus grand score. Pour l'élu nationaliste, si la vague de la semaine dernière se confirme et s'amplifie même, il enverra un message ferme à Emmanuel Macron. Fort de cette légitimité dans les urnes, les nationalistes souhaitent que la Corse dispose de plus d'autonomie. Et ici, on espère que Paris se montrera plus ouvert que ces dernières années. Bastia, Arthur Gerbeau, Cyril Graziani, France Inter.
À droite, c'est le jour J. Depuis hier soir, 20h, les militants des Républicains choisissent leur chef. Trois candidats en lice, Florence Portelli, Maëlle de Calan, et bien sûr l'archi-favori Laurent Wauquiez. Pas de suspense dans cette élection. Laurent Wauquiez pourrait même l'emporter dès ce soir. La question porte surtout sur la participation. Un peu plus de 52 000 personnes avaient voté à 11h. Un chiffre pas trop mauvais, Stéphane.
Non, 52 512 adhérents précisément s'étaient exprimés à 11h. Le parti espère rassembler au total entre 60 et 80 000 votants. Il reste un peu moins de 7h, c'est donc encore faisable. Mais à titre d'exemple, lors des dernières élections internes, il avait eu plus de 50% de participation. Et pour les atteindre ce soir, il faudrait plus de 117 000 votants, plus du double, ce qui n'est pas gagné. Depuis des semaines, Florence Portelli, elle affirme qu'en dessous de 100 000 votes, le scrutin serait un échec. Maëlle de Calan lui fixe plutôt le seuil à 80 000. Pour l'entourage de Laurent Wauquiez, en revanche, le contrat est déjà rempli. Il tablait sur 50 000 votants en tout, on les a donc dépassés. Un nombre sans doute volontairement bas pour faire passer sa possible victoire dès ce soir comme un grand succès électoral.
Alors si jamais Laurent Wauquiez remporte effectivement la victoire dès ce soir, l'enjeu ce sera le rassemblement.
Oui, il l'a répété tout au long de sa campagne avec même lors de sa dernière réunion publique une main tendue vers les ténors du parti qui ne le soutiennent pas, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou Christian Estrosi. L'enjeu sera d'éviter le départ des plus modérés pour ne pas se retrouver à la tête d'un parti recroquevillé sur lui-même. Florence Portelli et Maëlle de Calan espèrent d'ailleurs faire un bon score pour pouvoir peser et sur la ligne et sur le parti. C'est clairement l'ambition affichée par le JUPI Ismaël de Calan se faire entendre. On scrutera donc très attentivement dans les jours ou les semaines qui viennent la composition des futures instances du parti.
Estelle Schmitt du service politique de France Inter. La droite, on le sait, reste profondément divisée. Les centristes de l'UDI ont toujours fait alliance avec les Républicains. Mais cette fois, le message est clair. Si Laurent Wauquiez est élu, le fossé désormais trop profond avec les convictions affichées par le futur président de LR. Il n'y aura donc plus d'alliance électorale, prévient Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI.
La première fracture, elle s'est située entre les deux tours de l'élection présidentielle, lorsque Laurent Wauquiez et ses amis ont refusé d'appeler à faire battre Marine Le Pen en votant pour Emmanuel Macron. En faisant sauter ce que Jacques Chirac appelait la digue républicaine. La deuxième chose, c'est que les discours qu'on voit se développer, anti-européens, un discours identitaire jusqu'à l'obsession, caricatural, et qui se radicalise vers la droite toujours plus, en faisant ça, tout simplement, évidemment, Laurent Wauquiez, et en tout cas ses proches, non seulement font fuir une partie de leurs propres amis, dans leur propre parti, mais rendent impossible tout accord politique. Pour pouvoir se présenter, pour constituer une alliance, pour se présenter ensemble devant les électeurs, il faut quand même être d'accord sur l'essentiel. Et je constate simplement que ce n'est plus le cas et que ce n'est plus possible avec cette dérive identitaire, anti-européenne, démagogique et qui ne sait même plus faire front commun des démocrates pour lutter contre le Front National.
Jean-Christophe Lagarde, joint au téléphone par Yannick Falt.
Le journal de 13h sur France Inter.
Bercy étend les mesures de retrait, de rappel des produits infantiles fabriqués par Lactalis. Les raisons, un risque de contamination par des salmonelles. Lactalis avait déjà retiré et rappelé 12 références sur ses laits infantiles le 2 décembre dernier. On passe désormais à 620 lots retirés de la commercialisation. Cette semaine, 5 nouveaux cas de salmonellose ont été déclarés chez des nourrissons, dont l'un avait consommé un lait de riz qui ne figurait pas parmi les produits rappelés par Lactalis. Les explications d'Aurélien Accard.
Des laits infantiles vendus sous les marques Pico, Celia Nutrition, Minumel ou encore Carrefour. Et effectivement, 620 lots sont désormais concernés par cette interdiction à la vente. Ils vont être retirés des rayons, principe de précaution. Car selon Bercy, les premières mesures prises la semaine dernière ne permettent pas de maîtriser le risque de contamination. En fait, 5 nouveaux cas de salmonellose chez des nourrissons ont été détectés cette semaine. Et pour l'un de ces bébés, le lait infantile consommé ne faisait pas partie des 12 premiers lots retirés. Il s'agissait d'un lot de Picorie premier âge, preuve que la contamination est en fait plus large que ce qui avait été annoncé au début. Les analyses menées dans le même temps dans l'usine Lactalis de Cran en Mayenne ont permis d'aboutir à la même conviction. Le risque n'est pas maîtrisé du coup, c'est l'ensemble des lots passés par l'une des deux tours de séchage de cette usine qui sont désormais retirés. Ça ne veut pas dire que ces laits infantiles sont tous contaminés, mais il ne faut pas prendre le risque. Le détail des lots et des références concernées est à retrouver sur le site internet du ministère de la Santé et un numéro vert est à votre disposition, le 0800 636 636.
Une visite prévue de longue date, mais qui s'inscrit dans un contexte très particulier. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Contexte particulier marqué bien sûr par la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Une décision qualifiée de regrettable par Emmanuel Macron. La France souhaite ouvertement que Donald Trump revienne sur sa décision. Dès lors, que peut-on attendre d'une telle rencontre ? Les explications de notre correspondant à Jérusalem, Étienne Monin.
Et le contexte de Jérusalem change totalement la nature de la rencontre. Le rendez-vous avait été pris bien avant, au moment où l'Iran était au centre des préoccupations. Finalement, Emmanuel Macron est le premier dirigeant à recevoir le Premier ministre depuis la reconnaissance de Jérusalem. La rencontre se fait donc sous le signe du désaccord. Emmanuel Macron a jugé regrettable la position du président américain. Et la France, au Conseil de sécurité de l'ONU, a fait savoir avec les autres représentants européens qu'il ne pourrait pas y avoir de reconnaissance de leur part sans un accord conformément à la position internationale. La France fait également partie des 8 pays qui demandent des comptes aujourd'hui sur la gestion de la colonisation. Elle attend un remboursement pour la destruction d'installations financées par un consortium au profit des Palestiniens. Le montant est limité, mais la démarche inédite.
Que dit le droit international sur Jérusalem ? C'est un dossier complet à retrouver sur franceinter.fr. La Californie, toujours en proie de violents incendies. 6 foyers continuent de sévir au nord et au sud de Los Angeles. 70 000 hectares ravagés. On ne voit pas comment cela pourrait se calmer car l'été et l'automne ont été très secs. Le terrain donc très favorable à la propagation des foyers. À Los Angeles, la correspondance de Loïc Piala.
Malgré 4400 pompiers, 30 hélicoptères et 575 camions incendies, le Thomas Fire a détruit plus de 60 000 hectares depuis lundi. Il n'est contenu qu'à 15% et menace encore 15 000 constructions au nord de Los Angeles. La mobilisation de tous ces moyens a déjà coûté 17 millions de dollars à la Californie. La journée de samedi n'a toutefois pas été la pire de la semaine. Les vents ont légèrement baissé, mais ils pourraient reprendre dès aujourd'hui. Au sud de la Cité des Anges, les pompiers sont parvenus à contrôler un autre incendie massif, le Lilac Fire. Là aussi, ils restent prudents. Entre début octobre et fin décembre, les précipitations moyennes sont de 8 cm dans la région. Il n'a pas plu cet automne. Le gouverneur Jerry Brown, venu constater les dégâts, a été très clair. Cette nouvelle réalité risque de durer. Combattre les feux à Noël pourrait devenir une habitude avec le réchauffement climatique. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
La dépouille de Johnny Hallyday a quitté ce matin l'aéroport du Bourget, au nord de Paris. Le Boeing qui transporte le cercueil blanc ainsi qu'une soixantaine de ses proches a décollé peu après 10h, pardon, direction Saint-Barthélemy où Johnny Hallyday sera inhumé demain. L'hommage national à Johnny Hallyday qui a sans doute eu une influence sur les résultats du Téléthon. Cette année, les promesses de dons sont en baisse. Un peu plus de 75 millions d'euros contre 80 millions d'euros de promesses en 2016. Un Téléthon 2017 perturbé par cet hommage, reconnaît la présidente de l'AMF, Laurence Thiernot-Hermant.
Il est clair que la France vivait hier un moment d'émotion très fort, que le temps était au recueillement. Cette journée particulière et ces journées particulières ont été pas seulement des journées médiatiques, mais c'était vraiment la France qui a vécu un vrai traumatisme. Et lorsque on est endeuillé, lorsqu'on est plein d'émotions, évidemment, on n'a pas la tête à autre chose. Et je crois que les Français étaient tétanisés et ils ont vécu un choc terrible. Aujourd'hui, je pense qu'ils seront au rendez-vous parce que les téléphones sont là pour accueillir leurs dons au 36-37 et Téléthon.fr. La France qui a pleuré et qui pleure Johnny est aussi la France qui donne au Téléthon.
Laurence Thiernot-Hermant, jointe au téléphone par Philippe Randet. Je vous rappelle que vous pouvez poursuivre vos dons pendant une semaine au 36-37 et donc sur le site Téléthon.fr. Oui, Go accessible désormais de la gare Montparnasse à Paris. Jusqu'à présent, les TGV low cost de la SNCF étaient cantonnés à des gares dites périphériques, Massy dans l'Essonne, Marne-la-Vallée, en Seine-et-Marne. Ouigo, on le sait, c'est un modèle qui est apparu en 2013 et selon la SNCF, eh bien, ce marché fonctionne bien. En permettant à sa clientèle d'accéder à ses trains depuis Paris, la SNCF vise donc clairement une extension de sa clientèle. Rachel Picard est directrice de voyage de la SNCF, elle est au micro de Maxime Debs.
Quand on fait Ouigo, on va chercher une clientèle qui aujourd'hui est contente. Elle est ravie, c'est 95% de remplissage, un taux de satisfaction à 90%. Donc c'est nous qui faisons le choix d'aller faire croître ce marché en le mettant en gare parisienne en fait. La raison vraiment fondamentale, c'est d'aller élargir le potentiel de marché pour Ouigo. Sur cette année 2017, la stratégie de conquête et de croissance, elle commence à payer fortement puisqu'on a déjà, à fin octobre, 8 millions de clients supplémentaires dans la grande vitesse en France, à la fois sur Ouigo et à la fois sur TGV Inouï. Et on voit en cette année 2017 que le nombre de voyageurs de Ouigo sera déjà supérieur au total du marché des bus longue distance en France et à ce qu'on estime être le total du marché de Blablacar cette année en 2017.
Le saviez-vous, mais avant l'âge de fer, on fabriquait des objets en fer avec du métal extraterrestre. Et ça n'est pas une blague, c'est très sérieux. C'est une étude française publiée dans le Journal of Archaeological Science qui l'affirme, ce fer provenait de météorites. Les orfèvres de l'époque le choisissaient donc en connaissance de cause, Sophie Becherel.
Il n'existe qu'une centaine d'objets en fer de l'âge du bronze officiellement répertoriés. Des perles de 5500 ans retrouvées en Égypte, un pendentif syrien de 4300 ans, des haches chinoises ou la célèbre dague de Toutankhamon. Des objets dont la technique de fabrication fait débat chez les archéologues. Dès l'âge du bronze, les hommes maîtrisaient-ils la métallurgie, autrement dit l'extraction du minerai terrestre et la réduction chimique pour en faire du métal. Un spécialiste des météorites, Albert Jambon de l'université Pierre et Marie Curie va peut-être mettre tout le monde d'accord. Il a analysé chimiquement le fer et affirme qu'il a une origine exclusivement naturelle des météorites tombées du ciel.
Il y a des météorites qui sont constituées presque uniquement d'alliages fer-nickel. Alors c'est celles-là qui sont intéressantes. D'abord parce que c'est du métal brut, il n'y a pas de traitement chimique à appliquer dessus pour le transformer en métal, c'est déjà tout prêt, hein, il n'y a qu'à se servir. Et derrière, il y a juste à mettre en forme. C'est des bijoux, des objets de parure, des choses comme ça. Donc ce ne sont pas des outils, ce ne sont pas des objets d'usage courant.
À l'époque, le fer coûtait 10 fois plus cher que l'or, d'où la rareté de ces objets prestigieux. Mais très tôt, au Proche-Orient, la valeur des météorites a été reconnue, plutôt qu'en Occident, où elles ont été jusqu'au 19e siècle, associées à la sorcellerie ou à des balivernes.
Dans quelques jours, les fêtes de fin d'année, réveillon de Noël, réveillon du jour de l'an, c'est une période cruciale, on le sait, pour les ostréiculteurs. En Bretagne, au mois de décembre, c'est 50% du chiffre d'affaires annuel. Rien n'est donc laissé au hasard et pas question de subir les vols d'huîtres. C'est pourquoi les ostréiculteurs s'organisent depuis plusieurs années. Ils ont mis en place une surveillance renforcée de leur parc à huîtres. Le reportage de Johan Bizien.
Depuis plus de 4 ans maintenant, les professionnels bretons travaillent en collaboration avec les forces de l'ordre. Florence Madec est secrétaire générale de la conchyliculture de Bretagne-Nord.
Les services de la gendarmerie nationale nous apportent leur concours pour renforcer la surveillance sur les zones d'élevage, mais également autour des établissements.
Des contrôles réalisés de manière aléatoire, de jour comme de nuit.
Nous n'avons pas de plan de surveillance qui soit convenu avec la gendarmerie, en particulier avec les brigades nautiques. Ce sont eux qui déterminent les jours et heures auxquels ils vont intervenir sur un secteur de leur choix. Donc c'est très aléatoire. Au moins, ça garantit une bonne fiabilité.
Selon Alain Dréano, secrétaire général du comité régional de la conchyliculture de Bretagne-Sud, par rapport à d'autres régions, la Bretagne est assez épargnée par les vols.
Le renforcement de la surveillance et de la présence durant les périodes de fin d'année jusqu'à présent a bien permis de limiter les opérations de vol comme on peut connaître quelquefois dans d'autres régions.
Et ces contrôles seront renforcés jusqu'à la fin du mois de décembre.
Voilà, puis conséquence des conditions, des mauvaises conditions météo, notez que le match de l'ASM Montferrand Auvergne contre le Saracens et de la Coupe d'Europe de rugby a été reporté, il n'aura pas lieu cet après-midi.